Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
À travers le courrier, certains de nos auditeurs nous ont posé des questions sur la prière.
C'est pourquoi, durant cette série que nous continuons aujourd'hui, nous abordons ce sujet en profondeur.
En compagnie de Robert, pendant la première partie de ces émissions, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées sur la prière.
Puis lors de la deuxième partie de ces émissions, notre invité Jean-Philippe nous parle d'exemples de prières trouvées dans la Bible.
Bonjour Robert et merci d'être de retour parmi nous.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous abordons pour la troisième fois la question suivante. Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas toutes nos prières?
Et cette fois-ci, je voudrais apporter quelques éléments de réponse en me basant sur les paroles de l'apôtre Paul, écrites dans sa deuxième lettre adressée à l'église de Corinthe, chapitre 12, versets 7 à 10, que nous allons écouter tout de suite.
D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort.
Ce texte renferme tant de richesses qu'il est difficile de savoir par où commencer son étude.
C'est vrai, Yann. Mais puisque nous abordons la question « Pourquoi Dieu ne répond-il pas à toutes nos prières ?» Nous commencerons par faire remarquer que Dieu, en effet, n'a pas répondu à toutes les prières de l'apôtre Paul lui-même. Paul subissait une épreuve terrible. Nous ignorons laquelle, mais elle lui était si douloureuse qu'il la comparait à une écharde dans la chair. C'est pourquoi Paul pria le Seigneur de l'en délivrer. Toutefois, Dieu choisit de ne pas l'exaucer, mais dans sa grâce, il lui en révéla la raison.
Avant que vous nous éclairiez à ce sujet, il me semble important de rappeler à nos amis auditeurs que Paul était un chrétien extraordinaire. Aujourd'hui encore, il représente un modèle de foi, un exemple pour nous à bien des égards. Et pourtant, le Seigneur a choisi de ne pas l'exaucer sur ce point qui l'affligeait tant.
Voilà une preuve de plus que Dieu demeure souverain, car il nous exauce selon sa volonté, selon son bon vouloir. Et nous ne devons pas chercher à lui imposer notre propre volonté. C'est aussi la preuve que si Dieu n'intervient pas comme nous l'aurions souhaité, ce n'est pas forcément à cause de notre manque de foi, ni d'un quelconque péché. De plus, nous ne devons absolument pas en conclure non plus que Dieu ne nous aime plus.
Alors, pourquoi, selon le texte lu, Dieu n'a-t-il pas exaucé Paul à propos de cette souffrance bien précise ?
Car il fallait que Paul ne s'enorgueillisse pas. Voilà la première raison.
Mais pourquoi ?
Voyez-vous, Dieu avait accordé à l'apôtre Paul des révélations extraordinaires. Et Paul l'avoue, il aurait pu s'en vanter, s'enorgueillir, se mettre en valeur plutôt que Christ. Alors le Seigneur permit à Satan de l'affliger afin qu'il recherche avant tout l'humilité, qu'il s'attache à Dieu et dépende de son roi. Quelles que soient ses circonstances.
Et que pouvons-nous apprendre de cela?
Malheureusement, l'orgueil nous éloigne de Dieu. Alors, si l'Éternel répondait toujours à nos prières de façon miraculeuse, nous pourrions finir par croire que c'est parce que notre foi est grande, merveilleuse, et oublier la grandeur de Dieu qui est généreux et qui fait grâce à qui il veut, quand il le veut. Dieu se soucie avant toute chose du bon développement de notre croissance spirituelle et de la qualité de notre relation avec lui. S'il pense que répondre à une prière telle que nous le désirerions risque d'entraver cette croissance spirituelle ou nous éloigner de lui, alors il s'abstiendra de nous exaucer. Toutefois, nous pouvons affirmer que Dieu exauça Paul, mais pas du tout comme ce dernier l'aurait souhaité initialement.
Expliquez-vous davantage.
Dieu n'a pas délivré Paul de son épreuve, mais à la place, il lui annonça « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Ainsi, au lieu d'accorder sa délivrance, Dieu répandit dans le cœur de Paul sa grâce. Nous pouvons l'affirmer, il exauça Paul, mais pas de la façon dont ce dernier s'y attendait.
Qu'est donc la grâce dans ce contexte?
Normalement, la grâce représente l'amour immérité de Dieu pour les hommes. Toutefois, dans ce contexte particulier, elle désigne tout ce que Dieu va nous accorder généreusement pour nous aider à endurer nos épreuves et lui rester fidèles malgré la souffrance. En résumé, Dieu se donne à nous. Qu'existe-t-il donc de plus précieux? En Dieu, nous puisons la joie, la force de persévérer. En Dieu, nous trouvons la paix et une espérance rassurante. En Dieu, nous sommes remplis d'une sagesse qui nous permet de vivre pour lui au quotidien. Et je pourrais continuer cette énumération, mais la leçon principale est celle-ci. Dieu désire que nous nous tournions vers lui et que nous dépendions de lui, plutôt que nous affichions notre indépendance et croyons que nous pouvons nous débrouiller sans lui.
Ainsi, si nous prions pour que Dieu nous délivre d'une épreuve et qu'il ne nous exauce pas, ne faut-il pas alors le supplier de nous aider à endurer cette épreuve?
Oui, les voies et les desseins de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. Ses objectifs dans nos vies consistent avant tout à nous conduire sur le chemin de la maturité et à forger en nous un caractère qui ressemble à celui de Jésus. Toutefois, Dieu l'a promis. Si nos circonstances, nos épreuves deviennent trop difficiles, alors il se donnera à nous et ce qu'il nous offrira aura le pouvoir, la puissance de nous aider à traverser nos difficultés et nous suffira. Tournons-nous alors vers lui et dépendons de sa grâce en toute situation.
Merci Robert. Comme nous l'avons déjà annoncé lors de la deuxième partie de ces émissions, nous parlerons des différents types de prières rencontrées dans la Bible.
Et sans tarder davantage, je souhaite la bienvenue à Jean-Philippe, qui est de retour parmi nous. Bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler des prières de lamentation.
Le mot « lamentation » n'est pas forcément connu de tous. Que veut-il dire?
Se lamenter, c'est sombrer dans une profonde détresse causée par une situation particulièrement tragique et douloureuse. La Bible contient d'ailleurs un livre intitulé « Les Lamentations » parce que ce livre renferme les paroles du prophète Jérémie, écrites à l'occasion de la chute de Jérusalem qui fut assujettie par les Babyloniens. Ses habitants subirent alors toutes sortes de terribles atrocités. Toutefois, nous allons écouter à présent une prière de lamentation tirée plutôt du livre du prophète Habacuc, au chapitre 1, les versets 2 à 4.
Jusque à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? Jusque à quand devrais-je crier vers toi, à la violence, sans que tu nous délivres? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Je ne vois devant moi que ravages et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et le droit n'est pas garanti. Car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus.
Cette prière du prophète Habacuc révèle effectivement ses pensées agitées et troublées. Mais pourquoi?
Le prophète est plongé dans une profonde détresse et se lamente pour deux raisons. Tout d'abord, dans son pays, tout va à tort et à travers. Il ne s'y trouve qu'injustice, violence et conflit. Les droits des justes sont bafoués et les croyants souffrent dans cette société qui va de mal en pis. Il n'y a point de paix, point de sécurité. Ensuite, le prophète se lamente du fait que Dieu ne semble rien faire pour améliorer la situation des justes, ni non plus pour venir au secours de son peuple.
Donc la souffrance engendrée par des bouleversements sociaux, politiques et économiques, on fait germer une souffrance spirituelle qui s'exprime sous forme de doutes et d'interrogations.
C'est exact, Yann. Et nombreux de nos auditeurs pourront s'identifier avec ces paroles du prophète.
En effet, Jean-Philippe, mais étant donné que ces épreuves ont poussé Habacuc à se lamenter, Que pouvons-nous en apprendre ?
Les prières de lamentation sont importantes et le croyant doit se sentir libre de se lamenter auprès de Dieu. Il peut lui exprimer sa douleur sincèrement, lui parler de tous ses doutes et interrogations. Une prière de lamentation peut être très personnelle, liée aux épreuves qui nous touchent de près. Un deuil, une maladie grave, la perte d'un emploi, un manque de récolte, et ainsi de suite. Mais elle peut aussi refléter des événements tragiques et troublants sur le plan national, tels que des catastrophes naturelles ou des guerres civiles, par exemple.
Admettons que nous ayons cette liberté de nous lamenter auprès de Dieu, à quoi cela sert-il ?
Les prières de lamentation sont un premier pas vers le renouvellement de notre foi et notre espérance, de notre paix et de notre joie. Si nous ruminons dans notre coin, sans rien exprimer de notre désarroi à Dieu, nous risquerons alors de sombrer plus profondément encore dans l'amertume et nous éloigner de Dieu. Si par contre nous savons nous lamenter auprès de lui, en attendant son secours, alors il viendra à notre rencontre. Il réorientera nos pensées et nos sentiments. Il les conduira vers des vérités bibliques solides et rassurantes.
Et pouvez-vous nous dire comment ?
Dieu agit différemment, selon la personne et selon les circonstances. Il agit par son esprit et par sa parole, la Bible. Il peut agir de même à travers des frères et sœurs de l'Église.
Et qu'en est-il du prophète Habacuc, dont nous avons parlé tout à l'heure ?
Nous n'avons pas le temps d'aborder son livre en profondeur. Nous en avons lu les premiers versets lorsqu'il fit monter à Dieu sa prière de lamentation. Mais plus tard, suite à un cheminement spirituel assez long, le livre se termine avec ces paroles confiantes.
Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés.
Dieu marcha à la rencontre du prophète et il l'accompagna jusqu'à ce que sa foi soit renouvelée, car Dieu réorienta ses pensées. Il les dirigea sur les promesses et les vérités bibliques. Et Habacuc put enfin puiser sa joie et sa force en Dieu, même si son contexte, ses circonstances, ne s'étaient pas améliorées. Ce cheminement spirituel, qui débute dans la détresse et la lamentation, pour se transformer en une pleine confiance et une joie renouvelée, ce chemin peut être long et douloureux. Mais soyez-en assurés, chers amis auditeurs, Dieu est avec vous et il conduira chacun de vos pas sur votre chemin, quelles que soient les difficultés traversées et la profondeur de vos épreuves.
Sur ces paroles réconfortantes, nous terminons notre émission. Nous vous remercions pour votre écoute et vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.